Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, bonjour à tous. Je vous propose que nous fassions une lecture, elle est toujours originale, la lecture de la Bible, parce qu'il n'y a pas une histoire qui se ressemble. Enfin, qui peuvent quelquefois avoir des similitudes, de ressemblances, mais il y a toujours un message précis, ciblé, en fonction des personnages, en fonction des circonstances, des événements. Et ce matin, je voudrais vous parler d'un roi de Juda, dont vous avez certainement entendu parler, probablement parce qu'il était le fils de Salomon. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Vous me faites des signes? Mais dites-moi donc le nom. Ouais. Roboam. Roboam. Et vous savez que son nom veut dire tout simplement, eh bien, celui qui a grandi le peuple. Alors, c'est véritablement un paradoxe, parce qu'il porte un nom qui, normalement, pourrait laisser entendre un règne de prospérité extraordinaire, comme celui de son père, d'ailleurs, hein. Vous savez qu'il n'y a pas eu d'égal empire que celui de Salomon en Israël, Israël-Juda. Et on s'aperçoit qu'il a fait exactement, enfin dans les faits, la personne elle-même de Roboam, et puis les faits de sa vie, eh bien, ça a été véritablement tout le contraire. Il n'a pas agrandi son peuple, il ne l'a pas fait grandir ou développer, il l'a ramené à rien du tout. Et ça, c'est terrible, parce que normalement, quand il y a des successions, et une succession impériale, vous savez que les limites d'Israël et de Juda avaient atteint les proportions de ce que Dieu avait dit à Josué en son temps, que finalement, eh bien, il serait comme le sable de la mer. Le peuple de Dieu, le peuple élu, serait comme le sable de la mer. Alors c'est vrai que Salomon a été quelque part celui qui a vraiment réalisé la promesse de Dieu, en quelque sorte. Et puis Roboam, son fils, s'est passé derrière. Alors lui, il a tout mis par terre. Il resterait pratiquement plus grand-chose. Sur 12 tribus, il n'en restait plus que... Il y en avait toujours 12. Mais 11 séparés. Et puis une toute petite, la tribu de Juda. Alors, c'est intéressant de prendre en compte que quelquefois dans la vie, dans notre vie personnellement, dans la vie de l'Église, dans la vie de nos Églises, il peut y avoir des temps de grande prospérité et il peut y avoir, par certains moments, eh bien, des choses qui nous déconcertent. Où on se dit, eh bien voilà, il y a maintenant une telle réduction qu'on n'est plus comme quelques grains de sable éparpillés les uns les autres. Et je pense que c'est bien l'histoire de Roboam que j'aimerais vous raconter, parce que elle a touché pendant des siècles et des siècles les églises, hein, d'une manière ou d'une autre. Une grande bénédiction, et à un moment donné, et c'est souvent la faute des hommes, hein. C'est pas la faute de Dieu, hein. C'est même pas la faute des circonstances. C'est tout simplement, eh bien, voilà, les choses qui sont ainsi. Alors, nous allons lire dans 2 Chroniques, chapitre 10, verset 11. On va revenir un peu sur tout ce que je vous ai dit là, il y a un instant. 2 Chroniques, chapitre 10, verset 1er. Et le verset 19, c'est deux versets, hein, simplement. C'est le début et la fin. Le règne de Roboam a duré 17 ans, mais c'était plus du tout ce qu'il avait reçu en héritage dans les premiers jours de sa royauté, et à la fin, ça s'est très très mal terminé. Alors, je vous ai dit, 2 Chroniques, chapitre 10, verset 1er. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Jeune roi, adolescent peut-être. Et comme il était le fils de Salomon, il courait de... Ça courait de source, hein, que finalement, il soit le successeur de son père. Et c'était pas un petit royaume, hein, c'était un empire, hein, il faut bien l'oublier. Pas l'oublier. Et puis le verset 19 nous dit ceci. « C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. » Il est question de Juda dans le premier verset, il est question d'Israël qui se sépare, qui va faire un schiste. C'est comme ça qu'on appelle ça. Vous voulez peut-être un nom plus simple ? Une division. Parce que je crois qu'il n'y a rien de plus terrible pour une église. Il n'y a rien de plus terrible pour une famille que l'on appelle divorce ou qu'on l'appelle division pour une famille lorsqu'il y a ce genre de choses. C'est terrible. Parce que c'est une blessure à l'amour. Quand on sait que celui qui nous a rassemblés, celui qui nous rassemble... Celui qui a fait que les uns et les autres, alors qu'ils ne se connaissaient pas, on se retrouve ensemble pour adorer le même Seigneur et le même Sauveur que nous reconnaissons comme, eh bien, celui qui a payé le prix pour que nous soyons sauvés pour l'éternité et qui n'en arrive finalement, eh bien là, où il ne reste plus grand-chose. Sinon, un tout petit reste. Vous savez que l'histoire du schisme d'Israël et de Juda va durer des siècles et des siècles. Et ça ne se refera pas. Et ça ne s'est toujours pas refait. Quand Jésus va revenir, hein, oui, parce qu'il revient chercher son peuple, mais ça sera surtout la nation de Juda, hein, les Judéens. Et je crois qu'il y aura bien des autres, hein, certainement, comment pourrait-on dire, les Juifs messianiques. Mais toujours est-il que jusqu'ici, la faute de Roboam a été une faute qui n'a jamais été quelque part réparée. Alors on va regarder ça ensemble. Il est question dans la Bible du grand siècle de Salomon. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on l'avait vu de combien de messages de culte ensemble. Et il se caractérisait par un départ extraordinaire. Dieu lui demande « Qu'est-ce que tu veux que je te donne ?» Salomon dit « Mais je suis un tout jeune homme, je suis sans force et j'ai un empire à conduire devant moi » parce qu'il avait pris la succession de David, son père aussi. Hein. Et Dieu lui dit « Mais je te donnerai tout ce que tu as demandé et je te donnerai même ce que tu n'as pas demandé. » Alors ça a été une explosion de bénédiction et de grâce. Mais au bout d'un certain temps, parce qu'il a régné 40 ans Salomon, hein, c'est pas mal Salomon comme durée de règne, hein. Et au bout d'un certain temps, eh bien, parce qu'il s'est livré à l'idolâtrie, à l'amour de l'argent, à la sensualité et à toutes sortes de choses, tout s'est rapetissé. Il y avait bien encore l'Empire, hein, mais il n'y en avait plus l'esprit. Et quand, à la fin de sa vie, eh bien, nous voyons qu'il ne restait pas grand-chose. Et c'est vrai qu'il y a deux façons de diriger. Quand on est prince, quand on est roi, quand on est responsable d'une manière ou d'une autre, quand on est pasteur, pourquoi pas le dire, hein, eh bien, deux façons de diriger. Il y a la façon de diriger soit vers la liberté, la vraie liberté et l'épanouissement et faire fructifier ce qui a déjà été en place. C'est comme ça, hein. Ou alors, à ce moment-là, c'est la servitude et le fruit de la division, c'est-à-dire que tout s'appauvrit, tout se dégrade. Mais il y a toujours une promesse qui subsiste, c'est que Dieu est venu chercher les petits restes pour refaire un grand reste après, pour refaire finalement, tout recommencer à zéro. Vous savez, Dieu ne perd pas de courage, hein. Il ne perd pas courage, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Alors l'histoire de Roboam, en résumé, pourrait être celle-ci, c'est que Salomon va mourir, hein. Il va mourir dans une sorte de déchéance. Il a tout perdu. Il a tout liquidé. Et à cause de ses folies et à cause de ses exubérances, on venait de partout le voir, la reine de Saba par exemple, et les rois qui venaient de toutes les régions lui apportaient de l'or, de l'encens, ils lui apportaient des cortèges de comment pourrait-on dire, des colonnes de chameaux à l'infini, avec les épices, avec toutes sortes de choses. C'est très intéressant, le règne de Salomon, hein, figurez-vous. C'est les mille et une nuits, en quelque sorte. Eh oui, Dieu l'a béni richement. Et c'est son fils, Roboam, qui va porter un lourd déficit et un déficit négatif. Et nous allons être confrontés ce matin à, comme je l'ai dit tout à l'heure, à deux façons de diriger, d'envisager la vie, d'envisager nos responsabilités. C'est pas notre vie personnelle, mais nos responsabilités. Et je pense que il y a d'un côté la vraie liberté avec la bénédiction de Dieu qui s'ensuit, et puis il y a naturellement la division, où nous allons constater en pleurant sur des ruines que finalement il ne reste plus de la grandeur. Alors on pourrait dire, ah, l'histoire, le temps, c'était le bon temps, il y avait ceci, il y avait cela, etc., etc. Alors pas de nostalgie, parce que je dirais que le sentimentalisme n'est pas de mise dans la vie spirituelle. Il peut y avoir des sentiments, il peut y avoir des choses qui viennent inspirées dans notre âme par le Saint-Esprit, mais il ne faut pas se baigner d'illusions, de dire, eh bien voilà, c'était comme ça, etc., etc. On ne va pas pleurer tout le reste de notre vie. Il faut regarder devant de toute manière. Alors, à ce moment-là, c'est le verset premier que nous avons lu ensemble. Et le peuple va se rassembler naturellement. Et il va avoir besoin d'un chef juste et droit, capable. C'est ce que nous dit, et nous allons lire comme ça. Je pense que ça pourra être plus réaliste. Au verset 6, il est dit « Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple ?» Et voici ce qu'ils dirent « Tu es bon envers ce peuple, si tu les crois favorablement, et si tu leur parles avec bienveillance, ils seront pour toujours tes serviteurs. » Voilà le conseil des anciens. Et c'était un conseil de raison. C'était un conseil, finalement, eh bien là, devait être entendu par Roboam. C'est vrai que Salomon n'a pas toujours entendu le conseil de ses anciens. À un moment donné, il les a abandonnés. Il leur a dit, vous pouvez toujours parler, vous êtes en train de radoter toujours la même chose. Moi, je fais ce que je veux, je fais ce que j'ai envie. Donc, c'est comme ça que l'Empire s'est un petit peu dégradé. Naturellement, un petit peu beaucoup, d'ailleurs. Et nous voyons que ça, c'est le conseil avisé qui avait été donné donc à Roboam au départ. La sagesse et l'expérience des anciens, c'est important. Moi, je dis que dans une église, on n'est pas une communauté de jaunisme, jeunisme, voilà, on pourrait dire ça comme ça, plutôt. L'Église, elle est multiple. Il y a des enfants, il y a des adolescents, il y a des jeunes, il y a des jeunes couples, il y a, là, en effet, des hommes mûrs, il y a des vieillards, il y a des grands vieillards également. Et je pense que tout le monde a sa place et tout le monde a son mot à dire. Et c'est pour ça qu'il faut tenir l'équilibre, pour que tout le monde puisse avoir le contentement de la vie de l'Esprit au milieu de nous. Et de ne pas faire des sélections. Et de dire, voilà, comme ça se voit maintenant dans beaucoup de nos églises, où on se dit, maintenant, voilà, c'est ça. Il y a dans les pays anglo-saxons des églises uniquement pour les jeunes, uniquement pour les âgés. Eh bien, moi, je dis que ce n'est pas l'Église. Le corps de Christ, il est fait de toutes les générations. Il est intergénérationnel. Et là, nous voyons qu'en ce qui concerne, eh bien, il a entendu le conseil, mais il n'a pas voulu le suivre. Et nous avons lu, naturellement, eh bien, ce qu'il en était particulièrement dans ce que nous avons eh bien, là, devant les yeux. Parce que vous savez, et c'est tout à fait normal, et on le comprend, qu'avec la jeunesse, et elle est là pour ça, elle est là pour apporter le printemps, elle est là pour apporter du souffle. La vieillesse, elle est là pour apporter peut-être beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de modération, beaucoup plus de conseils, beaucoup plus de tendresse. C'est tout un ensemble de choses. Alors, on ne peut pas se permettre de biffer d'un côté, de dire, eh bien, tout ça, c'est fini, parce que ça n'a plus rien. C'est vrai, c'est peut-être hors notre génération. Dans certains cas, on peut le juger comme ça. Mais néanmoins, on a besoin des uns et des autres. Et ce que, je pense, Roboam avait vu dans sa vie de petit prince, gâté, pourri, on peut dire, c'est qu'il s'est dit, moi, quand mon père va disparaître, on va faire une église, enfin pas une église, mais on va faire un peuple qui va être uniquement avec les hommes, et puis les vieux, ben, on va attendre qu'on les enterre, et puis comme ça on pourra vivre encore une autre vie. Et je crois que ça c'est quelque chose, il faut faire attention. Hein. Mais c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Hein. On le voit en politique. Hein. Et c'est vrai qu'il y a du bon. Mais attention, il ne faut pas oublier le reste. Parce que si on oublie le reste, vous savez, celui qui oublie son histoire, il oublie son passé, il n'a pas d'avenir. C'est ce que l'on dit en tous les cas. C'est ce que l'on dit. Alors, le conseil et les expériences non entendues des anciens. Les tentations du changement quand on est jeune, et c'est vrai, il y a une fougue, il y a des perspectives, puis la société change aussi. Hein. Il y a des choses qu'on ignorait complètement il y a encore 15 ans, ou 20 ans, ou 50 ans, mais aujourd'hui, il faut bien en tenir compte naturellement. Donc, l'aventure, l'innovation de tout changer, comme nous le lisons un petit peu plus loin, au verset 8, il est dit ceci. « Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. » On va un peu plus loin, il est dit ceci. « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient le langage, à l'aile le joug que nous a imposé ton père ? Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple, et tu lui tiendras ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi, allège-le-nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous le rendrai encore plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. » Le conseil, je ne sais pas d'où il venait, mais c'était terrible. Parce que quand vous vous parlez, quand vous entendez un projet politique de cette manière, bah, y a plutôt intérêt de se ranger hein, et de se cacher. Parce que, vous savez, le Premier ministre, quand il est nommé Premier ministre, il fait un programme de gouvernement hein, et c'est mis devant l'Assemblée nationale. Voilà. Alors on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Il est toujours accepté de toute façon puisqu'il était élu. Enfin, le gouvernement était élu. Alors voilà donc un petit peu, il a répondu à la sagesse des anciens par une discipline de fer qui a produit un grand mépris, qui a produit un grand mécontentement. Cependant, il y a une petite annotation dans le texte, que dans notre chapitre, il est dit tout simplement cette parole au verset 15 qui est à l'origine d'une division qui va se faire jour bientôt. Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par Dieu en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite au prophète Achija, que finalement, eh bien, ça ne serait pas mené à bonne fin tout ça, en raison de sa dureté, en raison de sa rigidité, en raison de son mauvais cœur quelque part. Et il avait peut-être envie de faire la fête comme au temps de son père, en disant, bah, la fête ne va pas s'arrêter, on continue et on va aller plus loin. Vous savez, dans les époques de notre monde contemporain, quand les gens sont trop serrés, ils font la fête, mais alors à une dimension extraordinaire. Après une guerre, vous savez, les gens se lâchent. Hein. On pense à la Belle Époque, on pense à la, comment ça s'appelle, à un moment donné, il y en a une autre après la guerre 14-18. Les gens étaient complètement lâchés hein, dans tous les domaines. Hein. Voilà. Parce que voilà, c'est comme ça. À la rigueur va succéder finalement eh bien, tous les abus possibles et inimaginables. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement hein, de ce verset 16 à 19 ? Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, le peuple répondit au roi : quelle part avons-nous avec eux, David ? Nous n'avons point d'héritier avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant. Israël va tourner le dos à son roi nouvellement, c'est-à-dire Roboam, et ils vont rentrer dans leur tente et tout ça, et ça va être, eh bien, la dispersion, ça va être le schisme. Un schisme qui va durer, je vous l'ai dit, pendant des siècles et des siècles. Parce que ça va tourner juste à frôler une guerre civile. Et là, il va y avoir un prophète qui va venir, et qui va dire, non, ne te bats pas contre tes frères, ce sont tes frères de sang. Israël, Juda, c'est le même peuple. Et c'est ça ce qui est important. Que voulait garder l'unité, finalement, de son peuple élu. Et c'est pas pour ça qu'il n'y a pas eu des guerres entre Israël et Juda. Parce que bon, après, ça s'est dégradé et c'était terrible. Hein. La leçon que nous pouvons en tirer, c'est seulement l'orgueil. Ouais. L'orgueil qu'on excite, et c'est par l'orgueil, comme nous dit le proverbe 13, c'est par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Et c'est ça le but de notre message. Écouter les conseils. Dans le ministère qui a été le nôtre pendant des années, on n'a fait que ça. Donner des conseils. Où les gens venaient demander des conseils. On n'est pas parfait, hein, on n'a pas forcément donné que de bons conseils. Il faut le dire humblement. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'on a vu des gens qui ont écouté les conseils. Parce qu'ils ne les entendaient pas d'Alain. De la bouche d'Alain, ils les entendaient parce qu'ils y reconnaissaient une inspiration du Seigneur. Et ça, c'est important. Et c'est ça, c'est pas d'aller voir un homme pour qu'il nous dise ce que nous avons à faire. Non. C'est tout simplement de reconnaître que dans la parole d'un homme, c'est comme dans une prédication, c'est pareil. Et qu'à un moment donné, eh bien, il y a une inspiration. Et la parole que nous avons demandée à Dieu, Dieu va nous la répondre à travers, eh bien, tout simplement, quelqu'un, un frère, une sœur, un pasteur, une prédication, des choses comme ça. Mais il faut le reconnaître aussi. Et c'est une question d'humilité. C'est une question vraiment, eh bien, de reconnaître ce qu'il peut y avoir d'avisé. Et nous nous apercevons que, à ce moment-là, eh bien, ça marche. Et quelquefois, certains sont revenus nous dire, mais vous avez eu raison, c'est bien. J'étais contre, mais à un moment donné, je me suis aperçu que le Seigneur m'a convaincu dans mon cœur. Par contre, il y en a d'autres. On pourrait multiplier les exemples, ils sont peut-être beaucoup plus nombreux. Ils viennent demander, mais ils ne veulent entendre que ce qui leur plaît d'entendre. Et là, c'est une autre affaire. Ça, c'est beaucoup plus clair. Parce que quand Roboam a fait la démarche d'aller voir les anciens, il n'avait certainement pas l'intention de les écouter. Il avait l'intention de faire la fête avec ses petits copains, là, prince de tout ce que vous voulez, et de dire, eh bien voilà, on va demander de deux côtés, ça semblera juste et ça semblera égal. Tiens, on va voir comment ça va se terminer. Ça va vite se terminer de toute manière. Alors bien sûr, c'est une question de confiance, hein, recevoir des conseils. Est-ce que la personne qui donne les conseils est crédible? Est-ce que véritablement, eh bien là, elle est en capacité finalement, mais Dieu se sert de qui il veut, hein, de toute façon. Et Dieu est capable de nous dire ce qu'il faut entendre dans la mesure où nous voulons nous l'entendre. Et nous nous apercevons que c'est vrai, là, le texte nous le dit, c'est que par orgueil, eh bien, cela va exciter des querelles à un moment donné. Et on va dire, j'y arrive pas. Moi, on est venu quelquefois me voir en disant, eh bien, oui, tu m'as donné un conseil, mais bon, les conseillers ne sont pas les payeurs et j'y arrive pas. Mais la personne n'a pas fait ce qu'elle devait faire. On lui a dit ce qu'il fallait faire. Et quelquefois, il ne faut pas faire grand-chose. Il faut simplement croire au conseil. Et puis rester tranquille. Tout simplement, mais si on veut bricoler soi-même, et si on veut faire un composite entre moi, mes pensées, mes rêves, mes intentions, mes désirs, mes réalisations, mes ambitions, et puis un conseil qui m'a été donné, même s'il est spirituel, hein, même s'il est spirituel, et que vous voulez suivre votre voie, ça ne marchera pas. Et ils viennent nous voir en disant, mais ça n'a pas marché. Et pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que tout simplement, on n'a pas voulu retenir ce qui était l'essentiel. Vous savez, pour marcher avec Dieu, il faut être vidé de soi-même. Autrement, ça ne fonctionne pas. Eh oui, si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même, alors à ce moment-là, il verra ce que c'est que la véritable vie spirituelle, la marche spirituelle. Savoir écouter, savoir entendre, réfléchir sans précipitation où on se lance dans une aventure. Parce que la Bible nous dit que celui qui se précipite ne court qu'à la disette. Et à un moment donné, il va faire la constatation de ce qu'il espérait tant et que rien n'est arrivé. Et que tout a été le contraire. Ouais, sagesse, on peut dire conseillère, inspirée par un bon sens évident. J'aimerais rappeler deux ou trois petits principes qui sont importants parce que vous savez, il est bien dit, hein, et vous le savez, dans Jacques, il est dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et elle lui sera donnée sans murmure, elle lui sera donnée simplement et sans restriction, tout simplement. Alors demandons la sagesse. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a des choses qui sont complexes dans la vie. Hein. Il y a des décisions qui sont terribles. Hein. Qu'est-ce que l'on fait alors à ce moment-là? Mais le Seigneur est là pour nous conseiller. Le Seigneur est là pour nous préparer dans tout ça. Et c'est bien le problème de Roboam, qui lui a été écouté plutôt les mauvais conseils que les bons, et ça s'est terminé par la chute, par l'effondrement d'un peuple qui était un empire et qui n'est plus rien, qui n'était plus rien. Il y a quelques clés pour ça. D'abord, savoir recueillir, entendre, comprendre, un bon conseil auprès de bons conseillers. Je dis bien de bons conseillers, parce qu'il y en a qui sont toujours prêts à dire « Tiens, mais je vais te donner un conseil, tu vas faire ceci, parce que moi je l'ai fait. » Mais ce qui a marché pour l'un ne va pas forcément marcher pour l'autre. Hein. Ça, c'est faux. Hein. Ça, c'est complètement faux. Et il faut du discernement. Retenez ce qui est bon et bien, et rejetez ce qui est mal. On a suffisamment de discernement pour le savoir. Hein. Ça, c'est clair. Le deuxième point... Il y a ceux qui veulent tout changer vite selon leur avantage. Et il y a ceux qui ne veulent rien changer du tout. Donc il y a, on pourrait peut-être dire, qu'il y a un monde qui est fait de deux catégories de personnalités opposées. Il y a les anciens, mais il peut y avoir des anciens qui sont des idées modernistes, et il peut y avoir des jeunes qui ont des idées de vieux. Excusez-moi, hein, mais ça peut être ça aussi, hein. Il y a tout. Hein. La jeunesse, en général, a tendance à forcer la cadence. C'est normal. Hein. Physiquement, nous, on n'arrive plus à suivre, hein, quelquefois derrière. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Donc, c'est une question d'âge, naturellement. Au mépris de l'ensemble de tous ceux qui sont âgés, et où on les fait marcher par la force. Combien de fois on a vu des églises où on leur a dit bah, « Écoutez, c'est comme ça maintenant, et ça ne sera pas autrement. Alors, vous suivez, ou alors vous partez. » Moi, je l'ai entendu, ça, hein, c'est terrible. Hein. Si vous n'êtes pas content, ben, vous partez. Oh là ! Ça, c'est jamais à dire au Seigneur, parce que si le Seigneur nous a fait venir dans une église, c'était dit. Hein. Si le Seigneur nous a sauvés au prix de la croix, qu'il a payé le prix fort pour nous, et que... quelqu'un lui dise, eh bien, tu sais, si tu n'es pas content ou pas contente, tu peux partir. Attention, hein. Là, nous touchons au corps de Christ et ça peut mal finir. Et quelquefois, ceux qui donnent ce genre de conseils, c'est ceux qui sont partis plutôt qu'ils ne le pensaient. Et les autres sont restés. Le corps de Christ est précieux et on ne divise pas l'Église. Et puis, il y a les anciens qui sont parfois figés dans le temps. Parce que le bon vieux temps, c'était quelque chose, hein, bien sûr. Hein. Et qu'il jugeait, ou qu'il juge encore aujourd'hui meilleur, et qui s'arrête, hein, ou qui arrête le processus d'une certaine évolution du Saint-Esprit. Ah oui, mais dans notre temps, il y avait ceci, il y avait cela, le Saint-Esprit descendait au milieu de nous, il y avait les baptêmes, etc. Mais il y en a encore aujourd'hui. Il ne faut pas se faire d'illusions, il y en a encore des baptêmes dans le Saint-Esprit. Il faut les demander. Hein. Parce que si on oublie de demander... hein, demandez, vous recevrez, c'est sûr. Et Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Et ce n'est pas quelque chose de miraculeux dans un claquement de doigts. Hein. C'est dans la persévérance. Il faut avoir faim et soif d'être baptisé du Saint-Esprit. Si vous n'avez plus cette faim et cette soif, ou si vous l'ignorez parce qu'on ne vous l'a pas enseigné, eh ben c'est quand même quelque chose de préjudiciable pour l'Église dans l'avenir, naturellement. Les uns sont des novateurs, ce sont des jeunes qui bousculent tout le monde et quelquefois qui arrivent à scandaliser, comme en effet eh bien l'ami Roboam. Et puis les autres, ils sont statiques. Oui, j'ai ma petite chaise hein, pour le dimanche matin, pour la réunion de prière, pour la réunion d'évangélisation, qui sont avec un certain âge, et qui restent inertes et redoutent finalement tout changement, tout mouvement de vent qu'il peut y avoir dans l'Église. Et c'est ça justement ce qui fait l'intérêt. Quand le vent ne souffle plus, surtout qu'il ne soufflait pas très fort là, ces derniers temps, hein. On n'a pas été décoiffé beaucoup. Hein. Alors, non mais c'est pour dire, tout ça ce sont des attitudes humaines qui font que quelque part, eh bien, ça s'arrête. Et une église s'arrête. Ah, on est tranquille entre nous, entre soi, pas de problème, mais ça ne bouge plus. Il n'y a plus rien qui bouge, tout simplement. Alors, pourquoi refuser d'entendre des conseils? Quelles seraient les raisons, finalement, qu'on ne pénètre pas plus loin? Est-ce que c'est parce que nous voulons avoir raison à tout prix de nos attentes personnelles, ou est-ce que c'est pour le bien de tous? Il y a un sacrifice à faire hein, quand on est en responsabilité de quelque chose. Oui, on ne le fait pas pour nous. Malheur à celui qui le fait pour lui, hein, uniquement. Mais on le fait aussi pour le bien des autres. Et c'est quand même pas trop difficile de vivre notre vie chrétienne en s'intéressant aux autres. Voilà. Ça, c'est quelque chose dont il faut nous en souvenir. Je crois que tout ça est quelque chose d'important. Je voudrais souligner une chose. C'est quand un responsable comme Roboam a délaissé finalement le sens même de sa mission, de sa royauté, de ses responsabilités, de sa vigilance pour le bien-être de son peuple, alors à ce moment-là, quand il ne fait plus de progrès, eh bien le peuple ne fera plus de progrès non plus. C'est-à-dire que le peuple va rester nain, il va rester chétif, il va rester infantile et il ne va se nourrir qu'avec du lait, vous savez, du lait, du petit lait. Hein? Alors que Paul nous dit que nous sommes appelés à vivre maintenant, à grandir avec le temps, à grandir avec des aliments supérieurs. Hein, un bébé, on va lui donner du lait quand il va être petit, mais quand il aura 20 ans ou 30 ans, c'est plus un bébé à ce moment-là. Hein. Il prendra une nourriture solide. Eh bien, quand le directeur ou le conducteur spirituel a perdu cette vision, c'est que pour se dire que pour lui-même, il n'est même pas conscient qu'il n'avance pas et il ne peut pas faire avancer les autres. C'est normal. Trouvez pas ça logique? Tu ne peux donner que ce que tu as reçu et ce que tu as acquis toi-même. Et un pasteur doit être en permanence un homme qui évolue dans sa vie spirituelle, dans sa connaissance de la parole, dans le fouillement de la parole pour avoir finalement des éléments pour les transmettre à l'Église. Moi, ce que je suis en train de faire, c'est parce que ça fait 45 ans, j'ai travaillé la parole. Moi, je sais qu'au début de mon ministère, je passais tous mes matinées à méditer la parole de Dieu. C'était la vieille école. Ça, c'est sûr. Et je crois que l'acquis que vous avez eu quand je suis arrivé il y a 20 ans à Saint-Nazaire, c'était déjà un acquis qui avait déjà existé hein, 25 ans auparavant, lorsque j'étais dans les trois églises d'Anjou. Voilà, exactement. Je ne pense pas avoir fait des choses extraordinaires, mais ce que j'avais préparé pour les Angevins, eh bien, je vous l'ai donné à vous. Et aujourd'hui, moi, maintenant, je suis à la retraite. Eh bien, peut-être qu'il y a encore des choses, parce que les messages que je suis en train de vous donner, moi, je ne les ai pas donnés avant. Hein. Et moi, c'est toujours un plaisir. Moi, ça me fatigue de devoir refaire des choses que j'ai déjà faites. Hein. Ou alors, je peux m'en inspirer. Je peux prendre des éléments. Mais c'est ça. Il faut avancer, mes frères et sœurs. Il faut que les pasteurs avancent. Ils ont une garde-robe. Ils l'ont remplie pendant 3-4 ans dans leur stage. Et puis après, ils s'en servent comme ça. Alors, on comprend qu'ils vont d'une église à une autre, qu'ils sont en train d'aller d'ici à là, etc., etc. On en a eu, moi j'en ai connu, j'ai eu des frères hein, que je connaissais bien. Ah, dis donc, voilà, maintenant, moi je ne peux plus aller plus loin parce que je n'ai plus rien. Mais ça se travaille. Et on découvre toujours des trésors. La Bible est un trésor infini. Ah ouais, ça c'est sûr hein. Et heureusement, parce que peut-être que je ne serais plus pasteur si je m'étais contenté de ce que j'ai appris dans les années 60, 77, parce que c'est là où ça a commencé pour moi. Oui. Et je pense que ça, c'est important de le dire. Hein. Si un chef ne grandit pas, eh bien, l'Église ne grandira pas non plus. C'est normal. Et les chrétiens seront des chrétiens primaires. Excusez-moi, c'est pas péjoratif. Et quand ils auront l'occasion d'entendre peut-être un prédicateur ici ou là, dans une autre communauté, etc., et qu'ils entendront un message, ils diront « Mais là, au moins, on a de la nourriture !» Alors, ils peuvent tomber sur des bons prédicateurs, mais ils peuvent tomber sur des faux prophètes, ils peuvent tomber sur toutes sortes de coquilles, parce qu'il y en a que ils ne viennent pas de Dieu, hein, ça je peux vous le dire. Hein. Priez pour ça, mes frères et sœurs, parce que nous sommes dans un temps où il y a une telle Il y a une telle contestation dans le monde, c'est que on ne respecte plus rien. On est en train de tout bazarder. Quand on dit c'est bien, c'est bon, c'est juste, et ça promet l'avenir, ça prévient l'avenir, eh bien, à ce moment-là, moi je crois qu'il faut s'y engager, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui on dit non, c'est faux, c'est des menteurs, on va couper la tête à Louis XVI, tiens. C'est terrible, hein ? C'est terrible. Eh bien, vous savez, dans les églises, ça va être exactement la même chose. On a intérêt de faire attention, hein, je peux vous le dire. L'entraînement. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un fermier qui propose d'engager son âne. Vous savez ce que c'est qu'un âne ? Oui. Pas celui de l'école. D'engager son âne dans une course de chevaux pure race, pur sang. Vous voyez les différences, hein ? Enfin bon, c'est fait dans l'histoire. Alors l'organisateur de la course lui fait remarquer « Mais mon brave monsieur, votre âne n'a aucune chance de gagner. » Ben oui, évidemment, hein. Il y a des grandes pattes et il y a des petites pattes, hein. Ça c'est sûr. Alors il y en a un qui court devant et puis l'autre, il est plutôt à courir en arrière. C'est, c'est un peu l'image de l'âne. Le fermier lui répond tout simplement « Mais je le sais, mais la compétition, c'est de se mesurer avec des vrais chevaux entraînés, car mon âne a besoin d'une bonne compagnie exemplaire. » Eh bien, c'est ça ce que nous avons besoin. Dans l'Église, nous devons être exemplaires pour entraîner les autres. Et c'est pas pour ça que nous sommes tous des ânes. Nous sommes des chevaux de course. Mais oui, courez, il nous est dit, dans la carrière qui vous est ouverte. Hein. Courez, courez devant vous. Alors, sachons écouter. Et sachons aussi imiter, tout simplement. Vous savez, la médiocrité, le contentement de la médiocrité n'est jamais à la gloire de Dieu. Oh ben moi ça va bien, vous savez, hein. Moi j'attends que le Seigneur revienne et on verra bien comment ça va se passer. Non, non, autre chose. Et il ne faut pas craindre d'avancer, parce qu'avancer, eh bien c'est quelque chose que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et on peut commettre des erreurs. Vous ne voulez pas avancer parce que vous avez peur de commettre des erreurs ? Eh bien, tentez quand même, malgré tout, d'avancer. Et même si vous commettez des erreurs, vous pouvez venir devant Dieu. Et Dieu va vous pardonner vos erreurs et il va vous montrer après le chemin. C'est ça, justement. Moi, les gens qui réussissent dans le monde, dans les affaires et les choses comme ça, il y en a quelques-uns qui ont fait des choses extraordinaires. Ils ont perdu une fois, deux fois, trois fois, cinq fois. Et à un moment donné, ils ont persévéré et là, ils ont gagné. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. C'est un challenge que nous devons... Mais nous ne le portons pas par rapport à nous-mêmes, seulement pour nous-mêmes. Voilà, on court avec le Seigneur. Parce que la routine, elle tue. Il y a beaucoup trop d'églises où quelquefois les chrétiens nous disent « Mais il n'y a plus rien, il n'y a plus un souffle, plus de prière. Il n'y a plus d'inspiration dans la prière. Il n'y a plus d'enthousiasme. » Moi, ce matin, je me suis réjoui de vous entendre. Je ne peux pas chanter, mais de vous entendre chanter les vieux cantiques, parce que ce n'est pas des jeunes, hein, ceux-là. Hein, et de le faire avec intérêt, et de le faire toujours avec la même fraîcheur. Mais continuez, mes frères. C'est bien. Moi, je suis là pour vous encourager, et pas pour vous dire, ben voilà, vivement la sieste cet après-midi, hein, même si vous la faites, et vous avez raison de la faire. Un chef, il doit prendre des risques, mais des risques avec de bons conseils, comme le roi là dont nous parlons naturellement. Et c'est savoir accepter les défis et ne pas avoir de préférence les uns pour les autres. Moi, j'aime celui-ci, j'aime pas celui-là. On est venu me le dire, hein. Moi, j'aime pas ce que tu dis, Alain. Il aime pas, de toute façon, il aime pas, et puis c'est tout, hein. Je ne vais pas me mettre, parce que moi, je ne le fais pas pour moi-même. Hein. On me dit, oui, j'aime pas ce que tu dis, Alain. Qu'est-ce que je peux faire ? C'est comme ça. Vous savez, aujourd'hui, on y va, hein, et on ne respecte rien. Hein. Moi, je ne me serais pas permis de dire ça à mon pasteur. Hein, qui était mon beau-père. Donc, je pouvais toujours le rencontrer au coin de la rue ou dans un couloir de la maison. Hein. Ah non, ça n'aurait pas passé, hein, je peux vous le dire. Hein. C'était pourtant quelqu'un de très bien. Alors, on prend des risques. Et c'est accepter les défis, ne pas faire de préférence pour les uns, pour les autres, etc. Même s'il y a des gens qui vous sont désagréables, même s'il y a des choses qui ne vont pas, ben écoutez, on n'est pas obligé de les prendre par le bras et puis de les serrer en disant « moi je t'aime, je t'aime, je t'aime », parce que c'est du sentimentalisme, et le sentimentalisme c'est de mauvais conseils. Hein. Parce que là vous vous faites endormir, et c'est, comment pourrait-on dire, c'est du béni oui-oui. Vous connaissiez l'expression ? Béni, oui, oui, tout est beau. C'est beau, c'est déjà le paradis. Vous savez, regardez, vous avez les nuages, c'est tout auréolé de bleu dans le ciel. Regardez les nuages, vous allez voir, ils sont beaux. Hein. Non, non, mais attendez, on n'est pas sur la même planète, là. Alors, c'est travailler en collaboration, les uns avec les autres. C'est également pouvoir discerner avec un berger qui marche devant nous et pas derrière. Il ne se laisse pas traîner. Hein. Il ne se laisse pas entraîner. Il n'est ni à droite, ni à gauche, ni derrière. Il est devant. Quand vous voyez, par exemple, les transhumances, c'est bien le berger. Le berger. Mais j'en ai besoin de médecin. Hein. Médecin, guéris-toi toi-même, parce que vraiment, voilà. Hein. Mais bon, c'est quelque chose tout ça aussi. Hein. Ouais. Un berger, il se fait reconnaître parce que c'est lui qui montre la direction. Et s'il reste là, un petit peu... Quelqu'un a dit, tirez une corde et elle vous suivra derrière vous. Ben oui, je la tiens, je la tire, donc elle me suit. C'est normal, tout simplement. Et poussez-la comme ça en avant, et ben, elle fera pas un centimètre. Et ben c'est ça, justement. Le berger, il est devant, il tire le troupeau et le troupeau le suit. C'est l'histoire que nous avons vue il y a une quinzaine de jours avec le bon berger, la porte et le bon berger. Hein. Ça, c'est clair. Hein. C'est une image, hein, tout ça, naturellement. Je terminais maintenant. Réussir notre propre progression spirituelle, exercer une discipline personnelle, prendre des résolutions dans les conflits aussi, parce que quelquefois, il faut savoir trancher. Qu'est-ce que je fais? Je reste sur place? Je fais du sur place? Il y a parfois la nécessité de changer nos habitudes de réflexion, nos forteresses de l'entendement. On se dit, ça a toujours été comme ça, c'est la tradition, etc. Mais il n'y a pas de tradition qui veuille. Hein. La seule tradition qui va nous inspirer, c'est celle du Saint-Esprit. Hein. Parce que c'est lui qui est capable de nous mettre, de créer en nous le vouloir et le faire selon le bon plaisir de Dieu. Ça, il ne faut pas l'oublier. Hein. Changer nos visions. Ah, je m'étais imaginé que c'était comme ça, mais non, c'est pas comme ça. Le Seigneur peut nous montrer d'autres visions. C'est de nous ouvrir un nouveau plan d'avenir et surtout la recherche d'un bon accompagnement avec des gens qui sont de bons conseils. On a eu des frères dans les églises, ou même des sœurs, qui étaient des gens formidables. Ils n'étaient pas pasteurs, peut-être frères anciens, mais qui ont marqué profondément notre vie. Et on avait plaisir finalement à discuter avec eux, et quand il y avait quelque chose, on pouvait leur dire « qu'est-ce que tu en penses ?» Et chaque fois, ils nous disaient « c'est bien comme ça ». Voilà, continue dans cette voie-là, ça viendra. Est-ce que vous savez pourquoi ? Les anciens, ils ont un petit peu plus d'expérience que les jeunes. Et ils savent qu'ils ont touché aussi un petit peu à tout, et ils ont vu qu'il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Hein. Donc, attention. La conclusion serait la suivante. Le texte nous dit d'une manière très lapidaire, « Roboam fit ce qui est mal. » C'est fait, hein. C'est pas à faire. Mais il avait déjà l'intention, lorsque il a fait la sélection des anciens conseillers et d'aller voir les jeunes, il savait ce qu'il allait faire au départ. Alors si vous savez ce que vous allez faire, ou ce que nous voulons faire, ou que les choses se fassent comme nous pensons qu'elles devraient se faire pour nous, à notre bénéfice, c'est même pas la peine de poser la question. Ben, vous le faites tout directement, tout simplement. Hein? Et après, maintenant, c'est ça. Hein? Il a fait ce qui est déplu à l'Éternel, tout simplement, parce que son cœur, il n'a pas cherché de son cœur, eh bien, Dieu, tout simplement. Recherche l'Éternel dans toutes tes voies. Consulte-le dans toutes tes voies, nous dit la Bible. Eh oui, je prends les décisions comme ça et de dire, Seigneur, écoute, j'ai pris une décision. Maintenant, tu bénis la décision que j'ai prise. C'est pas comme ça que ça marche. Parce que là, c'est vraiment se moquer de Dieu. Ah oui, j'ai pris la décision, maintenant tu la bénis. Mais j'aurais quand même ajouté quelque chose, c'est que Jésus ne bénira jamais une désobéissance. Il pardonne le péché, mais il ne bénira jamais une désobéissance. T'as désobéi ? Il est capable de pardonner ta désobéissance, mais il ne la bénira jamais. Il ne va pas la changer. Et combien de fois nous avons entendu des prières dans les églises en disant, Seigneur, eh bien, je voudrais que ce soit comme ça, Seigneur, eh bien, tu bénis. Non, parce que c'est complètement contraire à la volonté de Dieu. Et les choses après se tournent mal. Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam, sa vie durant, car le salut est dans le grand nombre des conseillers, et n'oublions jamais que celui qui jette le trouble en portera la peine. Là, ça a été cher payé avec Roboam. Il a perdu son royaume, il a perdu son empire, il a perdu son peuple, il a perdu tout ce que son père avait amassé et ensuite laissé à l'abandon. Et lui, quand il s'est réveillé de sa faute, parce qu'il n'a pas voulu obéir à ceux qui pouvaient lui donner de saints conseils, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'un beau matin, il s'est réveillé. Il n'avait plus qu'un dixième de son royaume. Et il n'est jamais revenu, son royaume, quoi qu'il en soit. Et on peut parler de faillite avec Roboam. Mal commencé augure déjà une mauvaise fin. Je termine. Roboam est une autorité qui n'était pas à sa place ou qui n'était plus à sa place. Je dis bien, tout simplement. Et ça a été une grave incidence pour l'ensemble harmonieux du plan de Dieu. Israël, le peuple n'a jamais été dans la même configuration que ce que Dieu avait décidé déjà au départ. Voilà, bénir son peuple abondamment. Alors ça traînait à travers l'histoire, à travers des rois qui étaient bons, des rois qui étaient mauvais, à travers des guerres, à travers des déportations. Je pense à Babylone, je pense chez les Mèdes et les Perses, etc., etc. Ça a été une période terrible. Mais le plan de Dieu s'est quand même réalisé parce que celui qui était le fils de David, c'est-à-dire Jésus-Christ, est arrivé quand même. Et ça ne change rien au plan de Dieu. Mais par contre, qu'est-ce qu'on se fait du mal ? Qu'est-ce que l'on se fait du mal les uns les autres ? Je finis sur le conseil. Et vous connaissez le passage, parce que je pense que faut certainement pas l'oublier, celui-ci. Écoutez, je vais simplement le lire. Je ne vais pas faire de commentaire, on ne recommence pas. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent ?» Dixit Jean, chapitre 3. « Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et la sagesse. » Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, moi je ferais mieux que mon père, moi je ferais mieux que ceci, je ferais mieux que mon collègue, je ferais mieux qu'un tel ou un tel, voilà. Eh bien, quand on part avec un tel état d'esprit, c'est déjà plié, excusez-moi l'expression, mais c'est trivial, mais c'est déjà fichu, quoi qu'il en soit. Et ça ne devrait pas exister dans les églises. Un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et mentez pas contre la vérité. Cette sagesse, en ayant l'apparence de la sagesse, n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, elle est charnelle et diabolique. Bien que ceux qui sont tombés dans le piège nous disent, mais c'est le Seigneur qui m'inspire. Elle est charnelle, elle est terrestre, tout simplement. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. C'est ce que l'on voit dans nos églises. Du désordre et de mauvaises actions. Des critiques, de la médisance, quelquefois de la calomnie. Toutes sortes de choses. Moi, j'en ai honte de le dire ce matin. Et on en a vu. On en a passé. On a eu des coups de feu. Pour les anciens là, qui étaient là au début quand on est arrivé, je peux vous dire que le mensonge était monnaie courante, hein, avec des adultères, avec toutes sortes de choses. Eh bien, le Seigneur a permis que l'Église, et non pas grâce à nous, hein, mais à des frères et sœurs qui étaient restés fidèles, qui ont souffert, qui ont pleuré, ouais, et qui ont dit, ben, nous, on va quand même au culte le dimanche matin à Saint-Nazaire, parce qu'il faut que l'on soit là. Il y en a d'autres qui partaient comme des... qui volaient comme des papillons pour fuir et tout ça. Ouais. Alors, esprit de dispute et de désordre, toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Elle est ensuite pacifique. Elle est modérée, elle est conciliante, elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. Exemple de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Je termine avec ces deux mots, le mot « paix ». S'il n'y a pas la paix dans l'Église, c'est mal parti, mes frères et sœurs. Et les Églises sont menacées. Elles sont menacées de perdre la paix. Ouais. Je vous l'ai dit et je vous l'ai redit pendant 15 ans. Le but de mon ministère a été d'assurer l'unité et d'assurer la paix. Il y a eu la guerre avant la paix. Après, il y a eu la paix. Et l'unité. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est ? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne sa grâce. Mais si je me taisais, je ne ferais pas mon métier, qui est celui que Dieu m'a donné. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est pas un métier, c'est une vocation. Voilà. Parce que je suis pas un fonctionnaire, moi. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Merci, Seigneur, chacun a sa personnalité. Chacun a sa manière de restituer la vérité et la lumière. Et puis après, naturellement, ça tombe dans les cœurs. Alors il y a, dans le chant, il y a de l'ivraie. Invasif, abondant. Et puis, il y a la bonne graine qui, elle, va pénétrer la terre profondément pour s'y enraciner. Et ainsi, Seigneur, dans le nom de Jésus, assurer la moisson prochaine, la moisson à venir, celle, eh bien, Père éternel, du printemps, les pluies du printemps et les pluies de l'arrière-saison. Seigneur, je te demande de visiter nos deux églises de Redon et Saint-Nazaire. Puis il y en a bien d'autres, malheureusement. Et nous voulons te demander, Seigneur, que tu fasses grâce au nom de Jésus. Oui, Seigneur, donne à tes églises de bons conseillers, des hommes avisés, des hommes qui ne sont pas, en effet, animés d'un esprit amer, un esprit de revanche, revanchard, de concurrence. Seigneur, manifeste-toi et révèle-toi. Nous te bénissons et nous te remercions parce que tu es vivant et tu es fidèle. Et l'Église, c'est pas un jouet. L'Église, c'est pas, en effet, eh bien, du n'importe quoi. Comme le jeune Roboam, qui pensait qu'il pouvait continuer à faire la fête comme du temps de l'empire de son père, parce qu'il avait encore envie de jouer avec le peuple. Eh bien, dans le nom de Jésus, on ne joue pas avec le peuple de Dieu, avec le corps de Christ. Parce que le prix a été payé grandement, hautement. Et nous savons, Seigneur, que ce sont des êtres que tu aimes passionnément. Et merci, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Bénis ta parole. Conduis et dirige toutes choses. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.